On reçoit les deux candidats de la France insoumise dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, Caroline Delplace et Philippe Audegon. Caroline Delplace, vous êtes sophrologue.
Oui.
Philippe Audegon, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous étiez membre du parti de gauche. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors pendant la campagne présidentielle, un groupe assez important s'est créé à Arras, les Insoumis d'Arras. Est-ce que ce groupe est toujours actif, vivant aujourd'hui ?
Plus que jamais, bien sûr. Il y a même 8 groupes, alors c'est très actif.
Et beaucoup de personnes sont même venues nous rejoindre après le premier tour et même après les présidentielles.
Pour être, disons, plus actif, on s'est un petit peu dispersé. Par exemple, il y en a à Bourin, il y a Arras Sud, Arras Ouest et Arras Centre notamment. Et comme ça, pour couvrir les secteurs, c'est beaucoup plus efficace.
Alors, Jean-Luc Mélenchon a réalisé un gros score au présidentiel, un score également assez important sur Arras. Là, pour les législatives, la donne est somme toute un peu différente puisqu'il y a beaucoup plus de listes à gauche, hein, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, sans parler de Lutte Ouvrière. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas réussi à discuter ensemble avec les autres partis de gauche pour faire liste commune?
Bah écoutez, pour le moment, non. Hein, on verra peut-être après si on peut se rassembler, mais bon, pas pour le moment.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est des divergences programmatiques ou bien c'est d'autres logiques qui s'affrontent?
Bah écoutez, nous étions ouverts, hein, de toute façon, hein, à s'allier, mais bon, c'est leur choix.
C'est leur choix, il suffisait simplement qu'ils signent la charte de la France insoumise, apparemment.
C'était trop compliqué
Non, c'est la charte anticorruption, c'est tout.
En discutant un peu avec les gens, ce qui pouvait poser problème peut-être à certains électeurs dans le programme de l'Avenir en commun, c'est ce plan B, hein, l'éventuelle sortie de l'Union européenne. Et puis il y avait aussi cette question de la coopération avec l'Alliance bolivarienne. Alors comment vous voyez ces deux points du programme L'Avenir en commun?
Bon, tout d'abord, sur l'Europe, je pense qu'il était important d'évoquer un plan B, d'évoquer une sortie. C'était l'histoire de mettre un peu la pression sur Madame Merkel si Jean-Luc Mélenchon avait été notre président. Mais nous pensions fortement qu'étant la deuxième puissance en Europe, nous avions les capacités d'aller négocier. Si la France sort de l'Europe, l'Europe s'écroule. Donc nous avions totalement la possibilité d'aller négocier avec Madame Merkel.
En fait, il faut plutôt préciser Union européenne que l'Europe, parce que l'Europe, effectivement...
Nous sommes pro-européens.
Si c'était vraiment une Europe de la paix sociale, fiscale, et qui protège les gens, oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le référendum 2005. Et quand même, sur les marchés, beaucoup de gens nous disent qu'il faut sortir de cette Europe-là. Donc, on voit bien qu'il y a... Voilà, et c'est quand même l'Europe des banques, hein, qui nuit au peuple. C'est là que ça ne va plus. C'est ça qu'il faut comprendre.
Cette Europe-là, qui était censée nous protéger au départ de la mondialisation... Eh bien, c'est l'effet inverse qui a lieu aujourd'hui. Cette Europe-là nous met en concurrence les uns avec les autres. On voit des délocalisations, enfin, insoutenables tout le temps qu'il n'y aura pas d'harmonisation fiscale, d'harmonisation sociale. On va dans le mur.
Un mot peut-être sur la coopération avec l'Alliance bolivarienne?
Ouf, pas trop envie d'entrer dans cette polémique, non. Non, non. Ça a été très bien expliqué. Il faut suivre un peu les vidéos de Jean-Luc Mélenchon qui en parle très bien. Je pense qu'il y a d'autres sujets là tout de suite plus importants à aborder. Par exemple le CETA. Il faut savoir que nos députés vont devoir voter pour savoir si on adhère au CETA ou non, ce traité transatlantique avec le Canada. Ce traité, il est extrêmement dangereux parce que, bon, d'une part, il va encore tuer nos paysans. D'autre part, bah voilà, on va se prendre des produits style bœuf aux hormones, poulet au javel, des OGM. Ça, c'est intolérable. Et ensuite, il faut savoir que ça, bon, c'est pas encore appliqué pour l'instant, mais il y a cette histoire des tribunaux d'arbitrage. C'est-à-dire qu'une multinationale va pouvoir attaquer, par exemple, l'État français si on fait une loi contre le tabac. Un cigarettier va pouvoir dire « Moi, avec votre loi, je perds de l'argent. Donc, vous me devez autant de millions de dollars ou d'euros. »
Il faut savoir que le CETA, si ça passe, c'est la fin de l'exception française. On nous avait dit « Ben oui, le TAFTA, c'est pas bien, mais le CETA, c'est bien, alors que c'est un copier-coller quoi, pour le Canada. »
Mais c'est le cheval de Troie.
Voilà. Et il y a en près, derrière, il ne faut pas oublier, et les, ça on n'en parle pas, il y a le TISA qui arrive. Et le TISA vise à enlever 97% des services publics tout partout, dont l'hôpital, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est très 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 dangereux.
Oui, c'est vraiment un point de vigilance quand, quand les électeurs vont choisir leurs députés. Il faut savoir que M. Macron, il y a quelques mois, a dit que le CETA était un très bon accord. Nous nous disons l'inverse.
Alors justement, comment vous voyez un petit peu le, peut-être les premiers pas de, d'Emmanuel Macron en tant que président ?
Pour l'instant, il est très lisse. Hein. Il ne faudrait pas qu'il brusque son électorat. C'est... Là, pour l'instant, il vise à avoir un maximum de députés.
C'est pour ça qu'il
y a pas, voilà, il n'y a pas trop de vagues. Mais par contre, une fois les élections législatives passées, là, il va entrer dans le, vraiment dans le vif du sujet. Hein.
Casser le code du travail, alors que les gens, on le disait encore ce matin sur le marché, beaucoup souffrent sur leur lieu de travail. Ils n'en veulent pas plus. C'est fou, mais où est la dignité dans tout ça ? Et la sécu et tout ça, on sait très bien que c'est un ultra-libéral et ce qu'il veut faire. On n'a pas besoin de nous faire un dessin.
Et ce qu'il veut, c'est appliquer aussi les directives de la Commission européenne. Et je rappelle que la Commission européenne, ce ne sont pas des élus. Ce sont des gens qui font des, généralement des allers-retours entre ben, le Parlement européen, ou enfin, la Commission européenne, des grosses entreprises ou des banques reviennent à la Commission européenne. Ce sont ces gens-là qui gouvernent l'Europe. Et M. Macron a pour objectif d'appliquer... justement, les recommandations de l'Europe.
Encore une fois, ce n'est pas faire preuve d'anti-germanisme, mais quand on glisse notre bulletin de vote dans l'urne, on ne vote pas pour Angela Merkel, quand même. C'est assez effarant.
On va revenir à votre programme à vous. Est-ce qu'il y a des éléments, justement, du programme que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui ?
Avant tout, la transition écologique, hein, parce que, bon, ils ont mis Nicolas Hulot comme ministre, mais... Si M. Nicolas Hulot est cohérent et honnête avec lui-même, dans peu de temps, il va démissionner. Ça, c'est certain. La transition écologique, c'est une priorité. L'humanité peut se remettre d'une crise monétaire, mais elle ne se remettra jamais d'une crise écologique majeure. Nos sols sont en train de mourir à cause de, justement de l'agriculture productiviste. Il faut savoir que comment dire, les sols, bah, c'est un mélange d'insectes, de vers de terre, etc. Et tous ces produits qu'ils nous mettent eh ben, sont en train de tuer les sols. Bon, je ne suis pas en train de critiquer nos agriculteurs parce qu'ils font en fonction de ce qu'on leur a appris. Nous proposions justement de les accompagner dans le bio, de les accompagner à la fois sur le plan technique, mais de les accompagner également sur le plan financier pour qu'ils puissent faire également cette transition passée au bio. Il y a par exemple Claude et Lydia Bourguignon qui ont fait des travaux. Ce sont deux anciens du CNRS et qui ont monté leur laboratoire indépendant parce qu'on ne les écoutait pas suffisamment. Donc je vous invite par exemple à aller sur YouTube et taper Claude et Lydia Bourguignon et vous verrez leurs travaux.
Il faut savoir qu'il y a des terres actuellement qui sont en jachère, hein, tellement elles sont usées à cause des produits qu'ils ont mis dedans. Quoi. C'est quand même assez effarant, alors qu'il y a plein de gens qui meurent de faim. Donc.
Et il faudrait parler également du nucléaire. Beaucoup de centrales sont arrivées en fin de vie. Certains proposent de faire ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire refaire les cuves. Le grand carénage, c'est plus de 100 milliards d'euros pour faire le grand carénage. Nous, on proposait de mettre cet argent dans la transition écologique, énergétique. Et en même temps, ça crée de l'emploi.
Je sais pas
donc
si
c'est,
vu, un, mais
c'est vertueux.
En Suisse, ils ont voté pour la sortie du nucléaire.
Les députés sont aussi les représentants de territoires, hein, donc ici la deuxième circonscription du Pas-de-Calais. Est-ce que vous voyez des enjeux locaux, des dossiers particuliers à défendre aussi pour le territoire à l'Assemblée nationale ?
Bon, je sais que certains qui se présentent ici avaient parlé du canal. Bah, bien sûr que nous défendrons ce projet. Ça fait moins de camions sur les routes, ça fait moins de pollution. Donc voilà, effectivement, c'est le genre de projet qu'on va défendre. Mais moi, ce qui m'a touchée en faisant le porte-à-porte, par exemple, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de lien social. Et le lien social, ça passe aussi par les associations, en leur donnant plus de moyens, en leur proposant des locaux. Et là, je sais que c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir des salles et de pouvoir avoir des aides aussi en tant qu'association.
Bien sûr, elles ont de plus en plus mal à venir en aide aux gens, en fait.
Donc c'est bien de retaper les quartiers, forcément, mais j'ai l'impression aussi que ça fait un peu cache-misère, et qu'on ne s'occupe pas de la misère morale des gens.
Ils ont enlevé tous les services publics et tout ça, et ça, c'est très mauvais énormément, dans beaucoup de quartiers. On le ressent quand même pas mal.
Peut-être une dernière question. Pour arriver au second tour de ces législatives, il faut arriver à 12,5% des inscrits. Est-ce que vous avez déjà parlé au sein du groupe des Insoumis d'Arras des différents scénarios possibles en cas de triangulaire, quadrangulaire
Pas du tout.
Non, pour l'instant, on fonce parce qu'on est dans la campagne et on veut essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup d'enjeux, justement. Hein. C'est le troisième tour de la présidentielle et qu'il faut se mobiliser. Si on ne veut pas de ce monde-là, il y a aussi des gens qui peuvent proposer autre chose et qui proposent autre chose, justement.
Et moi, j'en appelle au bon sens des électeurs. Parce que s'ils veulent un vrai pouvoir de gauche et écologiste, c'est quand même localement la France insoumise qui a le plus de chances d'être au second tour.
Et surtout humanitaire et qui défend la paix. Avant tout aussi.